I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Les adultes sont globalement fatigués. On le voit quand on est petit, on le vit quand on le devient. Clairement, on est tous fatigués.
Tu trivialises ma poésie, Mathis.
Moi, dès qu'il y a du silicone, j'ai envie de le mâcher.
Ah ouais.
C'est normal. C'est laisse-moi kiffer. Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau.
Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc, Mathis ?
J'ai plus envie.
Yo, Guillo, Guillo, Guillo.
That is...
Et moi, même si je sais pas lire ce qu'il y a sur le paquet, je vois bien qu'il y a un rat barré sur le truc.
Votre cul est agréable ici. Merde.
Je peux quand même dire que depuis que ce chat a été béni, il n'a jamais été aussi insupportable.
Je voudrais dire que Kalindi est un peu drama queen et qu'elle en fait beaucoup.
Mais absolument
c'est
pas.
Moi. Attendez, trop de tiroirs ouverts à la fois.
Bonjour.
Bonsoir, bon après-midi et joyeuse Pâques, ce qui est bientôt l'heure de vous dire joyeuse Pâques, premier dog.
Oui.
Bienvenue dans ce Laisse-moi kiffer numéro 189. On approche tranquillement du 200e épisode. J'aimerais vous dire qu'on a prévu des trucs. C'est faux. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'on va faire pour le 200e épisode, mais on trouvera. On fera des trucs. Ça va être bien.
189, c'est plus que le nombre de voix obtenues par Valérie Pécresse.
C'est vrai.
Mais
ça.
Moins que l'argent qu'elle doit rembourser.
Oh non. Incroyable.
Super podcast de gauche.
Écoutez, on enregistre toujours dans l'entre-deux-tours. Ça paraît toujours dans l'entre-deux-tours. On n'est pas encore en dep. On ne sait pas à quel point on est en dep. On est en dep, vous le savez, on l'était déjà l'épisode précédent. Mais on ne sait pas encore à quel point. Donc profitez d'une équipe de Laisse-moi kiffer qui est quand même globalement de bonne humeur pour un épisode qui s'annonce solaire, car il fait très beau. J'ai donc décidé que ça allait être un épisode solaire. Bonjour les LM Crado, moi c'est Mimi, rédac chef de Mademoiselle pour encore... au moment où vous écoutez cet épisode,
10 minutes, jours,
pardon. 8 jours très 8 exactement,
jours mais non, mais
puisque
c'est
cet vrai. Épisode sort le 21 avril et mon dernier jour chez Mademoiselle est le 29 avril. Rappelons que Laisse-moi kiffer ne s'arrête pas pour autant, le podcast va continuer et peut-être que j'y passerai une tête de temps à autre, je dis peut-être, en vrai c'est à peu près sûr, mais je veux pas trop vous vendre des trucs que j'ai pas encore signés. Voilà, je suis comme d'habitude entourée d'une équipe de choc que je vais vous présenter via une question dont on avait eu l'idée en bitchant sur des groupes il y a plusieurs épisodes et par on, je veux dire moi qui bitchais sur des groupes.
Et du c'était coup, mon idée, je me rappelle très bien.
Et c'était l'idée d'Aïda Djoupa, que des bonnes idées, que des numéros 10 dans cette team. La question est donc, et tu vas commencer Aïda puisque c'était ton idée.
Ouais.
Quel serait ton nom de groupe électro-bobo parisien insup mais rigolo ? C'est un sous-genre niche, mais en vrai, il y en a plein des groupes électro-bobo parisiens qui ont des noms genre La Femme ou Équipe de foot et qui sont du coup chiants mais rigolos.
La Femme, en vrai, ça passe.
C'est pas l'électro-bobo.
C'est pas Miel de Montagne, tu vois.
Ah putain, j'avoue, Miel de Montagne.
Il y a un truc qui s'appelle Miel de Montagne.
Ouais, ouais. Et c'est bien en plus.
Un peu des brins barbus BG en vrai.
Ouais, c'est bien.
Je suis très énervée.
Ah non, mais c'est mon grand drame. C'est que sur le principe, ces gens m'énervent, mais en vrai, je trouve que c'est sympa, tu vois.
Mais oui.
J'ai une double réponse à cette question. La première partie.
Pardon.
Qu'est-ce qui se passe à côté de la table ?
Rien, je me suis pris les pieds dans les trucs.
Des gros coups de pied dans le canapé.
Dans un fil.
C'est le matériel, ça. C'est nos impôts. C'est
Kalindi. La première partie de ma question, c'est que, de la réponse, c'est que quand j'étais au lycée, on a essayé de faire un groupe d'électro bobo bizarre avec
my God.
À moi.
Story time anecdote.
En remixant des vidéos YouTube d'un mec qui s'appelle Andy Milakonis et qui faisait des vidéos où il disait « Ah, je mange du tabac !» Mais en anglais, ça faisait « Rolling tobacco !» Et on essayait de remixer ça avec un truc gratuit sur un ordinateur. Bref, c'était catastrophique.
Est-ce qu'on a cet extrait son quelque part, ouais.
Est-ce qu'on a quelque part une chaîne YouTube avec 4 vues via ces remixes ? C'est la question.
Je crois
que
qu'on l'a jamais publié officiellement parce qu'on s'est rendu compte très vite que c'était nul. On s'appelait Tchernobyl Survivors et je faisais des montages paint de dinosaures avec des chapkas. Bref, c'était une grande époque de mon existence. J'avais pas le droit de sortir de chez moi, du coup on faisait des trucs. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai changé et que j'ai glow up,
bien sûr,
mon nom.
Tu as le droit de sortir de chez toi.
En même temps, après ça, tu peux que glow up.
Après Tchernobyl Survivors, on peut que monter mon gars. Hein.
C'était pas encore l'époque des vrais noms bobo cool, tu vois.
Il n'y avait pas Miel de Montagne.
On a vu en 2010. Non, en vrai, je crois que ce serait le nom d'une de mes chansons de Jul préférée, qui s'appelle « La Sacem à Madonna ». Ce serait mon nom de groupe électropop.
Mais j'achète si fort. Alors, j'ai pas compris combien il y avait de mots dans là. Cette « là », « Sacem ».
Sacem, la Sacem, c'est les droits
d'auteur. Oui, je sais ce que c'est, mais...
A.
C'est...
Madonna.
Qui est utilisé comme un de la SACEM à Madonna.
Wow.
Tu peux le franchouiller et faire la SACEM à Mylène Farmer. Comme ça, il n'y a pas de droit à payer à tout le monde qu'on embrasse, mais qui je pense
que j'aime de tout mon cœur.
Bien sûr.
Viens me demander de l'argent si tu veux.
Alors viens dans la
SACEM. Mais est-ce que tu dois donner de l'argent à la personne que tu cites dans ton titre ou pas?
Non, je pense pas.
Ok, ça va.
Sinon, il ne l'aurait pas fait, je pense.
Ah ouais,
je pense pas qu'il paye Madonna. Après, Mylène Farmer, c'est plus risqué. Elle peut tomber dessus si ton groupe a du succès, tu vois. Donc,
mais pareil, qu'elle m'envoie un DM, il n'y a pas de souci. Je donnerai de l'argent à Mylène Farmer avec plaisir. Vraiment, envoie-moi ton Lydia, Mylène. J'arrive.
Envoie ton rib. Il n'y a pas de propre. Viens dans LMK, tant qu'à faire Mylène et Jules en même temps, les deux. Un épisode musical.
Ça aussi, ça peut être un bon nom de groupe. Mylène Farmer et Jules, ça marche aussi.
Mylène et Jules dans ton podcast.
C'est à mon tour d'annoncer que je quitte Mademoiselle.
Mathis, celui d'être désagréable. C'est quoi ton nom?
Eh bien, c'est une question, figurez-vous, que je me suis déjà posée dans la vie en discutant avec Camille de tous ces groupes émergents dont on nous envoyait la promo dans notre studio de podcast de musique, car vous savez que j'ai un studio de podcast musique qui s'appelle Studio Clémentine. Et donc, on recevait plein de trucs du coup d'attachés de presse, parfois de très grande qualité et parfois pas. Et du coup, on s'est dit qu'on allait fonder un groupe qui s'appelait Boulette.
Comme le chat de Marion Seclin.
Voilà, avec un truc un peu rétro, genre un peu pop, un peu esthétique 70s. Hein. En fait, on est né à Paris dans le 9e, on s'est dit que notre influence était les années 70. Enfin, voilà, bref, des trous du cul qui ne racontent rien dans des chansons qui chantent vaguement juste avec une ligne de basse vaguement cool.
Voilà, encore plus d'opinion que moi sur ces.
De la colère.
Finalement, je les écoute pas, donc j'ai pas tant d'opinion, à part que là, c'est marrant, mais un peu insupportable.
En vrai, je suis un peu affectueux, mais c'est parce que c'est des groupes qui durent pas trop. Oui.
Boulette, donc.
Boulette.
Très bien. Boulette de quelque chose, genre boulette de soja.
Non, juste boulette. Vraiment, c'est rétro.
Kalala.
Ouais, moi, en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec Alix Martineau, on écrit de la fiction. Et en fait, dans une série qu'on écrit, y a une meuf qui s'appelle Sharon, qui a créé un label de musique qui s'appelle Gluten Clandestin. Et voilà, et je pense que
c'est vraiment des connards de Parisiens, on a tellement des bonnes réponses à cette question.
Et du coup, ce serait Gluten Clandestin à fond, voilà. On hésitait entre gluten clandestin ou parpaing clandestin, mais gluten clandestin, ça nous a semblé mieux. Voilà.
Ouais, oui. Gluten, c'est mieux.
Parpaing clandestin, il y a un côté un peu BTP, un peu manif sous les pavés de la plage, tu vois. Ouais, alors que gluten clandestin, c'est Paris 2, quoi.
C'est vrai, t'as raison. Non, mais on a bien fait de choisir ça.
Ouais.
Merci d'approuver, de valider. Et toi, Mimi?
Moi, du coup, j'ai décidé que mon nom de groupe électro-bobo parisien serait Poireau Vinaigrette.
Ah,
c'est très brasserie. J'ai mangé dans une brasserie à midi et du coup, ça m'a inspiré. C'est très français, c'est très parisien parce qu'il y a vraiment. Je pense que dans ma vie, on m'a pas vraiment parlé des poireaux vinaigrettes. Et à Paris, il y a beaucoup de gens qui ont des avis sur les poireaux vinaigrettes, les déstructurés, les sublimés, les machins. Je suis là, ok, un délire de Paris.
À part dans le
monde. Et normal, ça marche bien, quoi. C'est comme miel de montagne. Poireaux vinaigrettes, t'es là. Moi, il y a poireaux vinaigrettes qui fait un DJ set ce soir.
Ça marche super bien. Mais en fait, je pense qu'il y a ce débat parce qu'à Paris, il y a beaucoup de bouillons. Et en fait, dans les bouillons, il y a des poireaux vinaigrettes. Et l'éternel débat.
Qu'est-ce qu'un bouillon, Kalindi?
Un bouillon, c'est une espèce de vieille brasserie où on mange de la bouffe de brasserie à pas cher.
Peut-on dire que les bouillons sont à Paris ce que les bouchons sont à Lyon?
J'en sais rien parce que figure-toi que j'ai jamais bouffé dans un bouchon lyonnais, je sais juste qu'on y mange de la saucisse briochée,
saucisson brioché. Et des gratons.
Et dedans, je crois qu'il y a des graffes frites. Parce que l'autre jour, petit aparté, je vais manger une côte de bœuf. Et donc le gars me rapporte une côte de bœuf et il me rapporte les gratons avec qui avaient été frits. J'étais là, gars, je viens de m'envoyer une côte de bœuf.
Audacieux comme accompagnement à la côte de bœuf.
Et du coup, je pense qu'en fait, ce débat pour aux vinaigrettes, comme à Paris, les gens mangent quand même pas mal dans les bouillons, il y a ce truc de. Moi, j'ai remarqué que dans la plupart des bouillons parisiens, les gens laissent du sable dans les poireaux. Je pense que c'est une des raisons qui explique pourquoi on en parle autant. C'est pour savoir si vraiment. Quelle adresse continue à laisser du sable dans ses poireaux ou non. Voilà, c'est ma théorie.
Eh bien, je serais poireau vinaigrette sans
dans
sable.
Du sable?
Ils sont de la terre.
Mais oui, mais tu sais, ça donne un côté un peu sableux dans la
bouche.
Comme les épinards. Oui, mais c'est chiant à laver un poireau. C'est la vérité, enfin bon, c'est qu'il y a un milliard de couches avec de la terre entre chaque couche et tout, et que c'est un peu casse-couille.
Bon,
mais ça n'excuse pas.
Bah oui.
D'accord, c'est la table, le mec est de droite immédiatement. Un épisode solaire, sauf pour Mathis.
Je sais pas, t'arrives, j'ai le coiffeur, il fait ouais, bon, j'ai pas fini la nuque, mais j'avais la flemme.
Et bah, tu ne le recommanderas pas sur TripAdvisor et tu n'en feras pas ton nom de groupe électro. Putain, il doit y avoir des noms de groupe électro avec des blagues de coiffeur avec R, mais bon. Ce sera pour une autre. Ah, je vais noter. Questionnaire de pouce, votre nom de coiffeur, évidemment.
Ça va mettre beaucoup de temps à réfléchir.
Je vous le donnerai en avance. Celui-là, je vous l'ai donné en avance parce que c'est pas toujours facile à improviser, mais en fait, vous aviez beaucoup d'inspi, donc ça tombe très bien. It's time for les commentaires. Aïda, as-tu un commentaire?
J'ai des résumés des commentaires précédents.
Trop long, pas lu, voilà. J'ai eu la flemme de screen.
C'est vraiment de plus en plus souvent, hein, vraiment.
Non, mais... En fait, il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont écrit, mais c'est pas forcément des messages que je peux lire. Juste, il y a énormément de gens qui m'ont envoyé des photos de leurs chats. Ils sont tous beaux, je les aime tous. N'hésitez pas à continuer et merci de mettre des photos de chats dans mes DM, car je ne vis que pour ça. Voilà.
Évidemment.
C'est pour ça que je me lève le matin. Donc, si vous arrêtez, je ne me lèverai plus.
J'aimerais en profiter pour dire,
oula,
s'il vous plaît, non mais c'est un vrai truc, arrêtez vraiment, ça fait 3 ans que j'ai dit que j'aimais pas les crabes qui font des trous et on continue encore à m'en envoyer en DM. Ça, vraiment, ça, je n'aime pas ça en fait. Donc il faut arrêter
comme
de le
Aïda
faire.
Et les pigeons qui baisent.
Exactement, et vraiment, si on peut arrêter vraiment, dès qu'il y a une vidéo, là j'ai vu, bah, grâce à mes DM, qu'en Australie il y avait encore eu une descente
une
de crabes
crabe,
là. Et donc ils font leur descente et tout, et ça englobe.
C'est bien parce qu'on dirait la BAC. Ils font une descente.
Ils englobent les voitures
à crabe. Voilà.
Waouh.
Je suis très impressionnée.
Merci. Je déteste les jeux de mots.
Et genre, ils sont tellement nombreux que les gars, ils emportent les voitures comme une marée, tu vois. Enfin, non, mais c'est un délire.
J'ai trop envie de voir
ça. Je vous jure.
Alors, j'en place une pour Soraya, auditrice fidèle, et une de mes meilleures amies qui est phobique des crabes. Genre, elle peut pas regarder Koh-Lanta, et quand dans Top Chef, il y a des crabes, vraiment, elle gueule et elle jette la télécommande par terre. Donc là, des crabes qui déplacent des voitures, je pense que Lago est en PLS dans le métro.
C'est horrible.
Hein.
Donc, s'il vous plaît, vraiment, arrêtez, parce que ça me rend vraiment pas bien. Ça me fait pas rire, ça me fait être pas bien. Voilà, merci.
Mais attendez, vous avez tous des animaux qui vous trigger avec une action associée, genre Aïda c'est les pigeons qui kennent,
moi tous
Kennedy,
les animaux
c'est les crabes qui kennent,
c'est
trous.
Pas que les pigeons.
Je suis pas trop fan des animaux qui kennent, mais c'est pas, en fait ça a bon. Jamais été un problème dans ma vie, donc okay. J'en vois pas tant.
Donc il faut que je me trouve une personnalité en fonction, donc ne m'envoyez pas des tamanoirs qui font la roue s'il vous plaît, je déteste.
Alors,
ça.
Envoyez-moi des tamanoirs qui font la roue par contre, parce que maintenant j'ai envie d'en voir.
Oui.
Ok, donc pas de crabes avec des trous.
Bon.
On aime les chats.
On aime les photos de
chats.
Les deux infos à retenir. Mathis, Tu as un commentaire ?
Mais j'ai mieux que ça. J'ai un freestyle. Messieurs dames, musique. Non, je déconne.
Je voudrais poser un slam. Franchement, j'y ai cru. Moi, j'étais là, ok, une petite ligne de basse et on a fait quoi.
L'enfer. Non.
Tu fais des vannes et après, les gens réclament. Hein. C'est ça, la vie
ouais,
dans l'MK.
Ton date se passe bien et puis tout à coup, il fait un slam, quoi. L'enfer.
Pourquoi j'ai l'impression que ça m'est arrivé ?
Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour dire « Mimi, vu que c'est ton dernier live, laisse-moi kiffer. Le 21 avril à 20h sur twitch.tv/mademoiselle. Tu peux faire de la capoeira ?» J'étais là, vraiment, non. Toujours pas. Non, non. Non, c'est non. Vous avez qu'à sub.
Ok. Non, mieux que ça. Je décide de tout simplement citer vos réponses parce que j'ai mis une story. À ton avis, c'est quoi le sport de insérer le nom de la personne dans l'épisode précédent qui est sorti donc jeudi dernier ?
Par exemple, Mimi, c'est la capoeira.
Et par exemple, beaucoup de gens ont dit la capoeira pour Mimi, mais des gens ont dit aussi des réponses très étonnantes et très drôles. Et je voulais vous en lire certaines.
Allez.
Par exemple, des gens ont dit que le sport de Mimi, c'était le tennis. Pourquoi ?
Pourquoi j'ai une coordination œil-main ratée.
D'un pigeon bourré, c'est le titre d'un épisode de l'MK.
C'est vrai, la coordination œil-main d'un pigeon bourré. Très bonne mémoire, Kaline Rumpfel.
Bravo.
Et courir d'un bout à l'autre d'un... Le seul truc que j'aime bien dans le tennis, c'est les bruits. Je trouve ça débile, les bruits qu'ils font.
Les bruits de Kenan.
Les bruits de Kenan.
Oui, c'est ça qui est
parce qu'en fait, il y a tellement de sports où il y a des efforts quand même brutaux, mais j'ai l'impression qu'à côté Nice, où ils sont là, on va être complètement libre sur les bruits
c'est
débiles
vrai.
Que font
c'est
le
vrai.
Corps.
Mais ils sont
riches,
ils ont
le droit.
Mais
je crois que c'est comme ça qu'on t'apprend à jouer au tennis, parce que moi, j'ai découvert très tard, en faisant d'autres sports que du tennis, que genre quand tu jouais au volley, tu pouvais pas faire en tapant une balle, tu vois.
C'est trop marrant. Putain, ça ferait une super comédie de quelqu'un qui a juste fait du tennis.
Mais c'est moi, c'est ma vie, c'est pas un film.
C'est drôle, hein.
C'est genre les gens qui se foutent de ma gueule au collège quand je joue au volet. Moi, je t'abat chez moi, au tennis, tu dois faire ouf quand tu t'as pas.
C'est fait. Vrai,
c'est bon.
Voilà. Et donc, quelqu'un a aussi précisé par rapport à Mimi, ce que je trouvais très très drôle, MDR en majuscule, et ce quelqu'un, c'est Fab Florent. Voilà, donc ton sport préféré.
Fab connaît mon amour voilà. Pour le sport.
Anthony, on lui associe tous les sports, globalement, il est bon partout, c'est
il
assez insupportable. Il y a même quelqu'un qui a dit le lancer de poids, non mais allez-y.
Mais c'est quoi, il le ferait bien.
Et il y a quelqu'un pour moi qui a visé très juste et qui a dit que mon sport, c'était... Attends, le hobby horsing ? Non, pardon, c'était pas ça que je voulais dire. C'était l'autodépréciation, et c'est vrai que...
Bah, oui. Champion olympique, hein.
Mais attendez, c'est quoi le hobby horsing ?
Mais je sais pas, fraté. C'est ton message, Google.
Mais j'en sais rien, moi.
C'est un truc où tu fais du ballon sur un cheval, non ?
Oh là là, c'est chiant. De toute façon, un sport où il y a un cheval, ça m'énerve. J'aime pas les équidés. Voilà,
alors,
ça m'énerve.
Hobby horsing, de l'équitation sans cheval, pardon. Pardon.
Génial.
De l'équitation sans cheval, n'hésitez pas à googler chez vous.
Donc,
parce
c'est
que...
quoi, j'ai sur un balai
donc tu cours.
Bah, c'est totalement
alors,
mon sport.
C'est finlandais, c'est le
c'est
cheval bâton.
C'est ça
là, c'est un putain,
je m'en doutais.
Un balai avec une tête de cheval, c'est comme les gens qui font du Quidditch.
Ouais.
Mais, sauf que c'est un faux cheval.
Ouais.
Ce qui est. Du coup, tu pourrais juste avoir un cheval alors que tu peux pas avoir de balai qui vole.
C'est un motif de rupture, hein.
Enfin, la culture du cheval bâton contemporain. Stop.
Et
bon, au moins c'est moins cher et ça fait pas souffrir d'animaux, pourquoi pas finalement.
Kalindi, ton sport, attention, c'est le trampoline d'intérieur.
Oui.
La plongée à Bali, ça marche aussi.
Certes.
L'escrime, évidemment. La bronzette. Bon, voilà.
Moi, j'aurais il y a, une y a danse, plein de suggestions. Une danse cool, genre le tango, tu vois. C'est mon rêve, je ne sais pas danser. Enfin, je sais pas danser. Alors, petit aparté, juste rapidement. Une fois, j'ai pris un cours de tango à l'école danse du Marais.
Ah.
Et j'avais obligé ma meilleure amie Lispicoque que j'ai plus le droit de... Et j'avais obligé ma meilleure amie Lispicoque que j'ai plus le droit de nommer dans ce podcast. Hippie.
Élise Piécoque. Notez bien la maison pour respecter
et
son anonymat.
Et elle m'avait dit je veux pas y aller, j'étais là mais pitié. Et bon, finalement elle était venue avec moi.
C'est vraiment en fait, une bonne poire.
Et en beaucoup. Fait, on s'était retrouvés à un cours de tango un samedi après-midi, on s'en souviendra toute ma vie, et elle et moi, parce qu'il n'y avait que des personnes de minimum 70 ans, et elle avait dansé avec un petit monsieur qui avait les cheveux violets, qui n'arrêtait pas de lui marcher sur les pieds. Et en fait, moi, j'avais mis une grande robe noire avec des grosses fleurs et tout, et c'était
attends,
pas du tout l'enfant.
Tu veux dire que t'en as trop fait?
Oui.
Tu vois dire
mais non, mais attends, c'est juste, ça s'appelle juste le premier degré, c'est important dans tout exercice, en fait.
Prends les choses au sérieux.
Et voilà, c'est ça. Et voilà, bah, c'est tout, ça se termine ici, mais voilà, c'était pas une super expérience. C'est pas danse avec les stars, tu vois.
Mais pas encore. Bientôt.
Pas encore.
Je veux devenir ce petit vieux aux cheveux violets qui écrase les pieds des gens. Vraiment, rapidement.
Spécifiquement d'Élise Piécoque. Oui. Je voulais pas être là déjà de base.
Cal, tu as un commentaire?
Ah oui.
Eh ben super.
Eh ben cool. Alors, je suis un peu boubou. Ça cumule plein de rubriques.
C'est un commentaire boubou, c'est rare.
Je suis un peu boubou dans le métro et j'écoutais l'MK. Alors merci pour cette Madeleine de Proust qui est Damien Sargue. Ah, donc c'est un vieil épisode. Pour la petite histoire, je me suis tellement engueulée avec ma coloc à cause de la chanson On dit dans la rue. En effet, dès la première strophe, il y avait débat sur les paroles. Quand ils disent
si seulement un outil permettait de vérifier les paroles d'une chanson de façon dématérialisée, quoi.
Mais tu sais pas quel âge elle a, Hortense. Et donc,
elle t'envoie un DM Instagram, Kalindi, à la Google.
Ok.
Et elle me dit, en effet, dès la première strophe, il y avait débat sur les paroles. Quand ils disent qu'ils méritent bien la lame, ma coloc entendait bidim balalam.
À mon avis, c'est elle qui avait raison. C'est c'est le plus plausible hein, comme réponse.
Je ne pouvais pas la laisser croire que les paroles pouvaient être si connes. Et bien sûr, j'ai toujours raison. Voilà, merci, c'était drôle de repenser à ça.
Big Kalindi Energy, ce commentaire qui finit par « Et bien sûr, j'ai toujours raison
oui. ».
Merci Hortense.
Merci Hortense. Moi, j'ai un commentaire de Pauline sur... Alors, pas l'épisode précédent, mais celui d'avant où Anthony avait parlé de randonnée à la Martinique et on avait parlé du risque de bestioles parce que genre,
les poussières
n'avaient pas été légales, c'était horrible. Et alors, beaucoup d'infos contradictoires puisqu'aujourd'hui, c'est Pauline qui me dit « Coucou Mimi, j'espère que tu vas bien. » Oui, merci. « Je suis en train d'écouter le LMK où Anthony recommande des randos à la Martinique. Pour y avoir passé 10 jours début 2020, je suis absolument d'accord avec ses recos et je voulais te dire qu'en 10 jours et beaucoup de randos en pleine jungle, j'ai croisé zéro bébête. Tu peux y aller sereinement. Bisous, bisous. » Merci Pauline, je ne te crois pas du tout. Ouais, je ne pense pas que c'est possible de ne pas croiser de bestioles en 10 jours dans la jungle, mais... Peut-être qu'un jour j'irai et tu auras raison, mais en attendant j'irai avec une moustiquaire personnelle quand même.
Après moi quand j'ai fait mon stage de ranger en Afrique du Sud, la vérité je suis restée plusieurs semaines.
Pardon,
oui, il y a plein d'articles sur Mademoiselle, je te les enverrai. Mais en vrai pendant plusieurs semaines où je suis restée là-bas, je n'ai pas vu une seule bestiole et pourtant on est en plein
dans
la savane
tête,
africaine.
C'est
tu
la
vois.
Savane, tu vois, genre c'est sec.
La jungle,
justement,
ça grouille. Ouais, je comprends, mais t'as quand même des araignées, bah, justement qui vivent dans
des araignées,
trucs
des scorpions
secs, tu
du
vois.
Désert
exactement.
Et tout,
je n'ai rien vu.
Ouf.
Donc, comme quoi, voyez.
Comme quoi.
Ah non,
voilà.
Non,
chacun dit
pas,
ce qu'il
non.
veut, finalement.
TB, c'est l'heure de l'anecbof de Star, qui est brève, mais very mademoiselle. Puisque c'est Lorraine qui nous dit « Salut la team LMK, est-ce que c'est ici qu'on livre les anecbof de Star ?» Tout à
oui.
fait, en DM sur le compte Laisse-moi kiffer, ça fonctionne. Et elle nous dit « Hier, je traînais sur YouTube et je tombe sur une vidéo de Charlie, qui travaillait avant chez Mad. » Donc Charlie Rano a été vidéaste chez Mademoiselle. C'est une personne absolument délicieuse, mais aussi zinzin et très créatrice. Une petite meuf bouclée, voilà, Charlie Mademoiselle, vous googlez, ou Charlie Rano, R-A-N-O, ça fonctionne. Actuellement, elle est au Théâtre National de Strasbourg et elle continue à créer des vidéos sur Internet. Donc allez voir, c'est la fin du point contexte. Donc je tombe sur une vidéo de Charlie, puis je descends de chez moi pour aller au travail. Et là, en face de moi, je vois Charlie en train de dévorer une pizza. J'ai pas osé la déranger, j'ai juste continué mon chemin avec un grand sourire. Bisous la team, vous avez égayé pas mal de mes soirées, de mes longs trajets en train et de mes footings à travers LMK. Ça m'est jamais arrivé vraiment de croiser une star en bas de chez moi tout en ayant... Ah, quoique, fut un temps, j'habitais à deux pas de chez Vincent Cassel, du coup c'était...
Classe
voilà.
C'était pas mal.
Moi, je tiens à dire d'ailleurs que moi, je croise tous les dimanches Fabrice Lucchini parce qu'il habite dans mon quartier. Et en vrai, moi, je vais tout le temps boire des coups au Bon Coin qui est en bas de chez moi. Et il passe tout le temps. Et alors, ce que j'adore, c'est qu'il
habitait plus à Paris.
Des caisses. Ah bah écoute, je le vois tous les dimanches aussi. Il a un appart à Montmartre avec sa femme.
Il habite au Brésil la moitié du temps avec sa femme aussi.
Avec sa femme et son chien qui est beaucoup trop mignon. Et à chaque fois, il a dit bonjour, comment est-ce que vous allez et tout. Il parle à tout le monde et je suis là. Il ne peut pas s'en empêcher. C'est pour ça qu'on l'aime.
Mais c'est bien, parce que comme ça m'aurait rendu triste que tu me dises, moi je crois souvent Fabrice Lucchini c'est un connard, tu vois.
Dans non, ma tête, il dit bonjour à tout le monde, il est avec son chien et tout, enfin il a l'air top.
On l'a.
Et moi je fais toujours comme si je le reconnaissais pas, parce que je trouve ça trop gênant de dire aux gens que tu les reconnais, donc je suis là, qui est cette personne. Et puis,
bah, dans l'épisode précédent, du coup, où t'étais pas, on avait une anecdote de star d'une meuf qui a fait fuir... Mais si t'étais là.
Eddie De Preto,
c'est toi qui étais pas là.
C'était
bref,
drôle.
Vous l'avez entendu vous aussi, les crado. D'une meuf qui a reconnu Eddie De Preto et elle s'est dit, ah, je veux pas le mettre mal à l'aise, donc je vais me déplacer pour me mettre dos à lui ou quoi. Et en fait, Eddie De Preto avait vu qu'il l'avait vu, et du coup, quand la go a commencé à se déplacer pour pas le gêner, il s'est dit, oh non, elle vient me voir, et il est parti. C'est là, oh non, je l'ai fait fuir. Oui. C'est l'heure d'une dédicace pour changer. Pas de message boubou, pas de message réveil, pas de message bourré, mais une dédicace, car pour rappel, vous pouvez toujours envoyer des dédicaces, le fameux LMK Rock, aux gens que vous aimez et qui écoutent LMK, ou alors aux gens que vous aimez qui n'écoutent pas LMK et qui seront donc obligés d'écouter LMK afin d'entendre parler d'eux, ce qui est une très bonne gateway drug pour se mettre à écouter Laisse-moi kiffer.
Excellente méthode.
C'est parti pour une dédicace audio.
Hello, hello, je suis dans la rue, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parasite, mais... Maintenant que j'y pense, je tenais à le faire sur l'instant. Je voulais donc faire une grosse dédicace à ma petite Nina, qui a commencé à écouter LMK récemment et qui apprécie. Et j'en suis très contente. J'ai réussi à l'embrigader dans l'écoute de ce podcast. Et ma petite Ninouche, sache que t'es une des meilleures personnes au monde, que je suis trop contente de t'avoir à mes côtés et que voilà, t'es formidable, t'es géniale, t'es créative, t'es rigolote. Et je sais que tu le sais, mais ça fait du bien de le rappeler. En plus, ça fait bientôt 7 ans qu'on est amis. Il paraît qu'une amitié qui dure 7 ans dure pour la vie. Donc même si la vie m'a montré que ce n'était pas forcément vrai, j'y crois pour nous. Et je te fais plein d'énormes bisous. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe de LMK qui me permet de passer des trajets qui me paraissent beaucoup plus courts et qui sont beaucoup plus drôles depuis maintenant quelque chose comme 3 ans. Voilà, un grand merci pour ça. Bisous.
Gros bisous, c'était trop mignon.
Gros bisous. Et écoute, tu devrais faire du podcast. Le truc est, la voix est posée. Enfin, je sais pas si la dédicace a été rédigée avant, mais je ne pense pas. Mais la voix est posée, le texte est clair.
Il y avait des robots parasites.
Ouais. Mais de ouf, je fais des audios chez moi, ils sont beaucoup moins audibles que ce truc.
Qu'est-ce qu'on se fait chier à venir ici alors qu'on pourrait être avec nos téléphones chez nous à s'envoyer des notes vocales.
J'allais dire, on pourrait être en terrasse avec un verre de blanc, mais ça marche aussi. Il paraît que sur les heures de travail, c'est compliqué. Merci beaucoup pour cette dédicace. Et donc, pour rappel, vous pouvez envoyer des dédicaces à @laisse-moi-kiffer sur Instagram ou à laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com. Et sur ce, c'est l'heure, vous l'attendez, d'un nouveau jingle signé Marine Normand, DG de Mademoiselle. Et ensuite, ce sera bien sûr l'heure des kiffs. C'est parti, jingle.
Fais comme si j'avais pris le kiff. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sur LMK.
Waouh, merci Valentin.
Et merci Marine Normand, toujours pour ce sacrifice personnel qui nous permet de vous mettre des chansons dans la tête tous les jeudis. Aïda, c'est quoi ton kiff ?
C'est terrifiant ce changement de disposition autour de la table. Maintenant, je commence.
Ouais, on est d'accord. Ah, mais c'est ça qui va pas.
Il faut savoir que dans Laisse-moi kiffer, quand on est à la gauche de Mimi, eh bien, on commence, car je fais de la gauche à moi. Du coup, Aïda commence aujourd'hui.
Je suis désolée.
C'est pas grave, je suis à gauche, donc je commence. Je suis d'accord avec ce statement. Mon kiff du jour est un kiff nourriture.
Ouais.
Mais c'est pas un truc qui se mange.
Ah.
Non, c'est un kiff bouffe. En fait, c'est... je sais même pas comment appeler ça, c'est un concept, une chose, un média. Bon, c'est pas vraiment un média, c'est un truc qui a une newsletter, un compte Instagram et d'autres choses.
Ok.
Une personne qui tient un truc qui s'appelle Shifan. Shifan en chinois ça veut dire manger. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais j'espère.
Peux-tu l'épeler ?
Et
je ne me prononcerai pas sur la prononciation.
C'est Shifan. Si vous tapez ça sur Instagram, vous allez tomber sur un compte Insta dédié à la nourriture chinoise. Trop bien. Avec des photos trop bien.
Kalindi a dégagé Instagram
de manière immédiate. Et c'est tenu par quelqu'un qui s'appelle Anda Cheng, qui habite à Paris. C'est un, je crois qu'il est né en Chine, ou en tout cas qu'il y a vécu un bon moment à plusieurs moments de sa vie, et maintenant il est basé à Paris. Et en fait, il raconte la nourriture chinoise d'une manière qui est super plaisante. Moi, j'ai une espèce de passion absolue pour la nourriture chinoise. C'est une nourriture qui est hyper variée en fonction des régions. La Chine, c'est évidemment un pays énorme, donc il y a plein de spécialités régionales, des trucs qui sont revisités entre une région et une autre, plein de trucs à découvrir, des trucs chauds, des trucs froids, sucrés, salés. Bref, ma passion.
Et il me semble que beaucoup de ce qu'en France on appelle nourriture chinoise, c'est pas vraiment chinois, c'est souvent des trucs vietnamiens notamment. Donc il y a aussi plein de... Enfin, en plus du fait que la Chine c'est énorme et qu'il y a plein de cultures culinaires au sein du pays, il y a aussi beaucoup de choses qu'en Occident on appelle nourriture chinoise qui sont pas vraiment chinois, donc il y a encore plus de choses à découvrir, quoi.
C'est ça, c'est vraiment un réservoir de ouf. Après, en vivant à Paris... on a quand même la chance d'avoir énormément de restos, que ce soit de trucs à emporter, de oui-boui ou de vrais gros restos plus étoilés, plus standing, on va dire, qui font plein de spécialités régionales différentes. Tu vois, tu cherches un truc où tu peux manger de la cuisine du Sichuan. À Paris, c'est très facile à trouver, t'en as 12 000. Je pense qu'il y a d'autres endroits en France où c'est un peu plus compliqué. Désolée, venez à Paris, je vous donnerai des adresses. Et pardon, excusez-moi, je tousse. Et donc il partage cette espèce d'amour qu'il a pour la nourriture chinoise. C'est aussi, ça fait partie de sa culture, même si encore une fois sa cuisine régionale ou culturelle est pas forcément la même que celle qui se mange partout en Chine. Et en fait, moi j'aime trop regarder des photos de bouffe sur Instagram, comme tout le monde. Je crois que c'est pour ça qu'Instagram existe.
Ça et les petits chats.
Et en fait, lui, il en parle d'une manière qui est vachement presque biographique. Donc, il va poster une vidéo de bouffe ou dans sa newsletter, qui est un peu ce que moi, je préfère parce que j'aime trop avoir des surprises culinaires dans ma boîte mail une fois par semaine. Il va dire, bah voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des nouilles. Moi, la première fois que j'en ai mangé, c'était à tel âge dans tel endroit. Cette odeur, elle m'évoque tel type d'endroit, tel type de souvenir. Et ensuite...
Full ratatouille.
Ouais, de ouf.
T'étais vraiment prédestinée à faire les témoignages chez Mademoiselle. T'aimes vraiment les histoires des gens.
Ouais, grave.
Ça me touche.
C'est vrai ?
Ouais.
Mais maintenant que je le fais dans mon travail, j'y arrive moins bien en dehors de mon travail.
Ah, je comprends.
Faites de votre passion votre métier et voyez ce qui se passe.
Exactement. Moi, j'aime moins le cinéma, je te rassure.
J'aime moins les podcasts.
C'est la go qui part pour en faire.
J'écoute plus aucun podcast, je trouve ça nul.
Moi, je ne lis plus Internet. Je ne vais plus sur Internet depuis 10 ans, c'est très compliqué.
Le podcast de la DEP.
Le travail passion, c'était vraiment une bonne idée pour tout le monde.
Oh, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?
Et non, il parle de tout ça d'une manière qui est hyper, hyper intéressante, hyper cool. Et surtout, il y a tout un bagage culturel qui va avec la manière dont il parle de nourriture, ce qui est un truc qui manque souvent quand on goûte à de la bouffe. Même parfois en voyageant, en vrai, il y a plein d'endroits où tu peux aller en disant « Ah tiens, je vais goûter ça, on m'a dit que c'était genre une spécialité régionale » sans avoir le bagage historique qui va avec ou le bagage culturel. Là, vraiment, si, il y a un numéro de la newsletter qui concerne les bao. Et en fait, t'as plein
de... Je peux
faire
le point contexte bao pour les gens qui ne savent pas.
Les bao, c'est des brioches fourrées, oui. Cuites à la vapeur, ou pas, parfois. Il y a plein de types de bao différents, dans lesquels il peut y avoir de la viande, des légumes. Ça ressemble à des petites... comment on décrit la forme d'une brioche ?
À des boules blanches.
Ouais, voilà.
Des boules blanches un peu torsadées en haut.
Un peu torsadées en haut, il y a des petits plis. C'est moelleux. C'est très bon.
Et souvent, dedans, il y a du bouillon.
Ouais.
Très chaud. Donc il y a un peu un trick, il faut l'ouvrir, que le bouillon il refroidisse, après tu slurpes le bouillon.
Ça, c'est les Xiao Long Bao, c'est pas les mêmes que les Bao.
Ah bah, tu vois, faut que je m'abonne à ton truc parce que je suis pas assez calée en Bao.
Il y a plusieurs types de Bao. Donc, ouais, en général, la manière la plus fréquente, c'est voilà, ces petites boules blanches fourrées à plein de trucs différents qui sont très bonnes et qui se mangent un peu sur le pouce, qui sont dans certains endroits de la Chine de la bouffe de petit-déj, il me semble.
Incroyable. Rêve d'avoir des Bao de manger frais chaque matin, hein, franchement.
Et dans l'épisode de la newsletter qui parle de ça, donc il y a un petit point contexte avec plein de bao différents en fonction des régions, pourquoi on mange ces types de bao dans ces régions, à quel moment de la journée on les mange. Et il y a même, vu qu'il y a plusieurs langues différentes qui sont parlées en Chine, le nom chinois de chaque bao avec un lien vers la prononciation. Ah. On va dire bah, ce bao, en mandarin on le prononce comme ça, et en cantonais on le prononce différemment. En France on utilise la prononciation cantonaise, mais sur place on utilise... la prononciation en mandarin. Enfin, vraiment, trop bien, t'as toutes les infos. Moi, je suis trop contente d'apprendre plein de trucs.
Tu veux dire que lui, il a 100% des infos, pas comme nous.
Et oui. Est-ce que c'est pas un peu mon modèle dans la vie, finalement? Mon aspiration? Et voilà, t'apprends plein de trucs sur la géographie de la Chine, sur l'histoire des sols, sur ce qu'on y cultive, sur pourquoi et comment on finit par manger ce type de nouilles chaudes, froides, pimentées, pas pimentées. Vraiment, c'est une mine d'infos trop cool qui, moi, me manque quand je regarde une recette de manière générale et que j'ai pas de point contexte, culture, émotion et tout derrière. Je suis là, bon, ok, c'est une recette, soit. Là, je vis la recette et la nourriture. Et c'est vraiment trop bien, c'est assez rare. Après, peut-être que je suis pas une assez bonne food blogueuse, mais c'est assez rare de tomber sur des contenus comme ça sur Internet qui sont aussi accessibles, riches de plein de trucs, trop cool à lire. Et en même temps, bah, y a aussi plein de recettes, évidemment. Donc en plus, t'as, une fois que tu as ton historique de pourquoi on mange telle nouille à tel endroit et comment ça se prononce et ce que veut dire leur nom en chinois. J'ai appris par exemple qu'il y avait des nouilles qui avaient un nom en chinois avec le caractère le plus difficile à écrire de l'univers, genre un idéogramme qui avait des millions de traits. Et du coup, en fait, en Chine, on n'écrivait pas l'idéogramme, on écrivait genre la prononciation à l'occidentale du truc. Bref,
les
flemme.
Nouilles, tu vois lesquelles.
Voilà, des petites anecdotes.
Les nouilles, c'est long, quoi.
Il fait aussi des food tours à Belleville, où en gros, tu peux t'inscrire, arriver à midi, et après le suivre un peu partout dans Paris pour goûter tous
attends,
les trucs.
Attends, mais attends, what? Ça ne choque personne ici que ça a l'air d'être la meilleure activité.
Alors, ah ouais, c'est mon rêve. Hein.
Je sais que les food tours sont la meilleure activité. Trop, ça m'étonne peu.
Hâte.
Attendez, vous aimez manger en transport, vous?
Mais non, mais tu marches.
Attends, tu
mais c'est mais tu marches, chiant. T'arrêtes, tu manges.
T'es pas dans
tu
un bus. Un petit truc, ah, ensuite, ah oui, non, c'est pas.
Alors, moi, je voyais les bus resto horribles là où mais ils s'entassent. Non, à, non, mais... oh, on est content de payer 50 balles de plus. Attends. Parce qu'on a un bus formidable.
Moi, Belleville, on est des bobos, tout ça, c'est à pied. Bah, genre, oui. Les petites adresses sympas que les, okay. Que les locaux.
Non, mais la bouffe, voilà. C'est l'angle mort de la culture générale de Matisse. Ça fait quelques semaines que je l'ai remarqué. Il ne connaît pas les légumes, il ne connaît pas les plats. Je veux pas que j'aimais, hein. Mais c'est pas grave.
Il connaît pas les food tours.
Il pense qu'on veut le mettre dans un bus.
Mais heureusement, tu as. Laisse-moi kiffer pour faire ton éducation.
Non, mais je vais me jeter du haut d'un pont, c'est bon, on va pas non plus.
C'est un peu dramatique pour ne pas savoir ce qu'il y a en fait.
Oui, bon, écoutez, je suis sagittaire. Merde.
Donc oui, un food tour que vous pouvez retrouver si vous tapez Chifan sur Google ou que vous allez le voir sur Insta. Bref, peu importe. En tout cas, tout a l'air merveilleux dans ce que cette personne propose. J'ai faim. Et voilà, trop bien d'apprendre trop plein bien. De trucs, d'apprendre
c'est
des
amusant, j'ai mangé de la nourriture sichuanaise à midi.
Et c'était bon ?
C'était bon, mais c'était pas assez copieux, donc je crève la dalle. Et après, j'ai mangé du coup la moitié des schtroumpfs. Voilà, et là, j'ai envie de vomir.
Bienvenue dans la vie de Kalindi. J'ai mangé trop de
tous les jours, on a cette conversation.
Laisse-moi digérer, nouveau podcast.
Du coup, j'ai une reco pour toi qui fera office de micro-kiff l'air de rien. Il y a un podcast qui s'appelle Bouffon.
Oui,
qui
que
est
je
chez
connais.
Nouvelle Écoute, qui avait été créé par Guillaume Malissen et repris par Émilie Lestari, que les Mademoiselle fidèle connaissent, puisqu'il y a des années, Émilie Lestari bossait pour Mademoiselle et faisait des super contenus, et qui parle de bouffe, comme son nom l'indique, mais avec souvent ce prisme, raconter l'histoire de la bouffe, ses origines, qu'est-ce qu'elle représente pour les personnes dont c'est la culture et tout. Émilie Lestari est elle-même d'origine vietnamienne, donc bah, par exemple, elle a fait un épisode sur les banh mi qui est super, et je trouve que c'est une façon très intéressante de parler de bouffe, nonobstant le fait qu'écouter un podcast sur la bouffe, ça fout juste le seum quand t'as pas la nourriture à manger immédiatement. Je me souviens du tout premier épisode de Bouffon qui était sur les ramen, je l'écoutais dans le train, j'avais zéro bol de ramen devant moi, j'avais un sandwich triangle, j'étais là, c'est la pire idée.
Horrible.
C'est comme manger Top Chef avec des chips molles, tu vois, faut pas faire ça. Regardez Top Chef avec des chips molles. Mais du coup, Bouffon, ça peut bien aller avec cette newsletter, compte Instagram, conglomérat de contenu.
Ouais, je sais pas comment on appelle ça. J'ai pas envie de dire genre créateur de contenu, ça veut pas dire de choses très
précises. Non, mais il y a un média, quoi.
Ouais.
Ouais, c'est tout, ça marche.
Merci.
Merci, Kalindi, pour ce point vocabulaire. Merci Aïda pour ce kiff.
Merci à vous de m'avoir écouté.
Mathis, c'est quoi ton kiff ?
Mon kiff est un légume.
J'arrive pas à y croire une seule fois.
Mais tu sais,
mais non, c'est faux. Bien sûr que c'est faux.
Tu sais, je vais te dire, c'est pas grave parce que par exemple, vendredi, j'ai dîné avec une de mes amies et en fait, ça fait quelques années que je me suis rendu compte qu'elle connaissait pas les animaux de la ferme. Et une fois, on regardait Zootopia. Non, mais c'est vrai. On regarde Zootopia et tout. Il y avait un mouton. Elle me dit, ouais, t'as vu le bouc, il est gaulerie. Je lui dis, c'est vraiment 100% un mouton en fait.
Elle est juste parisienne. Et
mais le pire, c'est que même pas. Elle vient de. Comment ça s'appelle là-bas les Vosges. Et...
L'insulte.
T'es insupportable.
Et donc, je lui disais, mais non, Laura, tu vois, c'est quand même un bouc. Enfin, non, c'est quand même un mouton, tu vois. Et elle me dit, ah ouais, c'est quoi la différence? Donc, bon, bref. Et je me suis rendu compte que plus tard, qu'elle savait pas non plus que c'était qu'une gambasse. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui avaient des tu vois, qui connaissaient beaucoup de choses. Elle parle 7 langues et tout. Mais il y a quand même, on a toujours un angle mort dans notre culture, quoi, tu vois.
Oui.
Mais les animaux de la ferme, c'est surprenant.
Mais on parlait de Charlie Rano tout à l'heure, que j'embrasse évidemment, Charlie de Mademoiselle, qui est hyper calée, bah, notamment théâtre, la gosse est tueuse, et que j'ai vu de mes yeux découvrir que des carottes pas oranges existaient.
Je me rappelle,
vraiment, elle était en crise existentielle de... J'ai demandé des carottes, elles sont violettes. Je suis là, oui, c'est des carottes violettes. Elle était là, what the fuck. Depuis quand? Mais bon, Charlie se nourrissant de pâtes à l'huile d'olive ou au ketchup, c'est pas si surprenant.
Mais c'est quoi vos angles morts à vous? J'ai le droit de digresser ou pas?
Ouais, vas-y.
J'ai très envie de savoir quels sont les angles morts de chaque personne.
Je pense qu'on peut dire que c'est la musique et l'art vivant pour moi, hein, parce que vraiment, on est dans un long moment de solitude.
On a appris pour la danse, en effet, hier.
Oui, on a parlé de danse dans le dernier épisode. Enfin, Mathis a parlé de danse, de spectacle de danse.
Qu'elle J'ai même dit, dansé.
Anthony, machin, on rebondit, on parle de chorégraphe, et moi, j'étais là. Ah ouais, vraiment, vous allez pendant 4 heures regarder des gens danser, quoi.
J'ai envoyé la vidéo à Mimi d'un extrait qui est absolument bouleversant. Elle m'a répondu, merci, je ne la regarderai jamais.
J'ai décidé d'arrêter de mentir aux
gens. J'ai passé 4 heures dans les toilettes à pleurer, à chaudes larmes.
C'est quoi ton angle mort, toi, Kel?
Bah, le sport.
Ah ouais, bah j'avoue, le sport bah, aussi.
Non, et puis Internet, en vrai.
Ton kiff d'hier.
Mais regarde, t'es arrivée chez Mad, tu savais à peine ce qu'était Instagram, maintenant t'es influenceuse. Je trouve que tu t'améliores sur Internet. Bientôt Kaline dit sur TikTok. Vous êtes pas prêts.
Et dans bah, foot sale, ouais, et dans foot sale, dans
chien. Et dans foot
sale, bien sûr.
Mais ouais, non, le sport, j'y connais rien.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Et toi?
Mais moi, tout le monde sait quel est mon angle mort, qui est cinéma. Tous les gens que je sais pas différencier. Gilles Lelouch, Christian Clavier, c'est quoi?
Vraiment, l'autre jour, elle était là. Je sais pas qui est Gérard Jugnot, tu vois.
Voilà, tu me dis n'importe quel quadra français qui est un peu de la télé ou du ciné, enfin quadra, quinquin, ils sont quels?
Là, ils bah, ont ils sont septuagénaires, là.
Parce que vraiment, je pense que Gilles Lelouch et Christian Clavier ont déjà 20 ans d'écart, tu vois. C'est vraiment, c'est on n'est pas dans la même génération, quoi. C'est...
Moi, je connais que la tête de Laurent Vauquier.
L'un pourrait limite être, je pense que Christian Clavier pourrait être le père de Gilles Lelouch. Je pense qu'elle confond avec Claude Lelouch. C'est pas bizarre.
Ah. Je sais pas, non. Tous les gens qui ont joué dans le truc avec...
Le petit mouchoir.
Non,
bah, y a pas Christian Clavier,
son quadra. Le truc, prenez un chewing-gum et mille là.
La cité de la peur, il y a zéro voilà. D2 dedans. Vraiment. C'est waouh.
Ok.
Waouh.
Cinéma angle mort, on note.
Alors, Case in Point, cinéma c'est français. Bien ton angle mort. Ils ont pile 20 ans d'écart. Christian Clavier aurait pu avoir Gilles Lelouch à 20 ans. Vraiment.
C'est peut-être bien. Le cas d'ailleurs.
En effet, les hommes du cinéma français, c'est plutôt un big nom.
Voilà.
Ok. Mathis, what is your kiff? Let's go back on track.
Eh bien, puisque mon angle mort est la bouffe, j'ai décidé de vous parler d'une chaîne de cinéma pour que Aïda, finalement, n'ait plus d'angle
c'est
mort et soit une espèce de... comment on appelle la tour au Futuroscope qui tourne sur elle-même à 360?
Aucune idée, vraiment.
C'est
horrible. J'ai été au Futuroscope dans ma vie.
J'ai été deux fois, c'est vachement nul.
Pas encore.
Ouais, désolé Poitiers, mais non, il y a une espèce de tour, ouais, il y a une espèce de tour qui tourne sur elle-même et du coup t'as une vue, mais c'est vraiment boring, enfin vraiment tu t'en dis.
Oui, c'est une vue quoi, c'est un truc panoramique.
Voilà, donc
mais ça tourne
Aïda, grâce à... Bon, on s'en...
Je vous avais dit que ça allait être un épisode bordélique.
Pardon. Du coup, oui, tout ça pour dire, donc je pars d'une chaîne de cinéma qui aidera Aïda à ne plus avoir d'angle mort comme la tour qui tourne modérément vite au Futuroscope qui est à Poitiers. Et cette chaîne s'appelle Calmos. Et Calmos, en fait, j'avais découvert la chaîne il y a très longtemps. Et comme beaucoup de choses que je découvre, j'avais oublié. Parce que moi, je suis un labrador. Et récemment, Mélanie a partagé cette chaîne.
Tu me disais là, c'est ce qu'il y a de son mec ?
Oui, absolument. Et du coup, donc, Mélanie a partagé ça.
Contexte, Mélanie.
Mélanie étant l'ancienne directrice des rédactions de Mademoiselle, qui est partie très récemment et qui du coup a beaucoup travaillé avec moi ces derniers mois sur les podcasts et qui nous a permis notamment de sortir Mon corps se poids. Bande annonce. Non, je plaisante.
Je crois que
je l'ai foutu vraiment sur 5 épisodes. Je pense que les gens ils me détestent déjà.
Vous l'avez.
Et donc voilà, cette chaîne Calmos parle de cinéma et plus particulièrement de comédie et ils le font bien et c'est plutôt chouette parce qu'ils parlent beaucoup de comédie française mais sans avoir ce truc un peu cinéphile de...
Avec des gens genre Gérard Jugnot et tout.
Ouais, voilà, il y a notamment des comédies genre Le Splendide. Le Splendide, cite nous qui c'est, contexte Aïda.
Il y a un magicien.
Il y a un magicien ou pas?
Ok, c'est j'ai envie de créer un contenu où c'est juste Aïda essaye de deviner, genre si je te dis Les Inconnus.
Ah ouais, alors j'ai un souvenir de quand j'avais 4 ans sur la télé de ma maison, ils étaient déguisés en vampires. Je crois qu'ils faisaient des blagues sur les impôts, c'était grave de droite.
Non, Les Inconnus, c'est pas grave de droite.
Ah, bah, je sais pas. Ah, si. Des blagues sur les impôts.
Rappelle-toi de ce sketch où il monte sur une chaise à Barbès, il crie les Arabes dehors. Tu te souviens pas de ce sketch?
Non.
Et ben voilà.
Dire ce que je viens de dire.
Didier Bourdon, si tu veux.
Il y a tout un sketch où ils imitent les Juifs quand même.
Quand même, Les Inconnus, il y avait légitimus.
Ouais, ils sont sympas.
C'est pas le plus blanc des collectifs par rapport au Splendide, par exemple. Mais bon, d'accord. D'accord.
Légitimus, c'est un magicien.
Il y a pas de magicien. Alors déjà, on n'est plus dans le Splendide, on est dans Les Inconnus, qui sont connus. Attention, il y a un piège.
Un nom de magicien.
Ok, Pascal Légitimus, c'est grave un nom de magicien, ça sera le titre de cet épisode.
C'est vrai.
C'est vrai.
Pour, je veux juste préciser que ma mère a trouvé son premier travail à Pascal Légitimus à une
quoi,
quoi
dans
quoi
une foire où il vendait des.
Attends, mais j'ai l'impression déjà que ta mère a 15 ans de moins que Pascal Légitimus, donc dans le sens. Ça
en fait, avant
pas.
Qu'il soit, si avant qu'il soit connu, ma mère était toute jeune et elle lui a trouvé une place pour vendre des robots c'est... ménagers, je crois.
Mais
je sais
c'est
plus
pas vrai.
Si si, la vérité, la vie de ma mère.
Tu mens.
La vie de ma mère.
Tu mens.
Mais Kalindi ne ment jamais, c'est ça qui est bon dans ces anecdotes.
Mais c'est l'inverse de Serge Lemiteau.
C'est pas possible.
C'est vrai.
J'accepte pas. Je refuse. Non.
Incroyable. Voilà.
Ça n'existe pas.
Ah, une foire de robots ménagers, je crois. Mais vous lui demanderez, wow. C'est un truc comme ça. Ouais.
Non,
j'espère
on demanderait
à qui. C'est ça qui a inspiré, du coup, dans Les Trois Frères, tout le truc avec la vente, la vente en magasin.
Ah, je l'ai
le
vu.
Puis le rara, le miracle. Bref.
Ah, tu
l'as vu, Les Trois Frères?
Ouais. Là, c'est
Les
Inconnus. Je me rappelle de rien, mais je l'ai vu.
Super. Et le Splendide, c'est les gens des bronzés, tu sais. À la base, c'est une pièce
mais
je suis
pas
très
non, mais bronzé,
c'est
pas,
elle a dit la cité de la peur, Christian Clavier. Qu'est-ce que tu veux qu'elle sache, les bronzés? Non, mais no offense, moi aussi, je suis nulle dans des trucs, tu vois, y a pas de probe.
J'assume
tout. Let's get back to Mathis. Du coup, les comédies.
La rue Tabaga, donc.
Oui.
Ouais, donc.
C'est masculin, mais.
Allez, c'est bon, hop, mic drop.
On
au revoir.
Est aujourd'hui.
Je prends la porte, je m'en vais, je ne reviendrai jamais. Non, tout simplement, donc, c'est Hugo Alexandre et David Honora qui font des vidéos donc, d'analyse de globalement pourquoi c'est rigolo, pourquoi c'est drôle. Tel angle d'humour, donc notamment un épisode sur SS117, mais il y a aussi des trucs un peu moins connus, ou en tout cas qui n'ont pas les mêmes publics, comme Bakri et Jaoui, qui sont un duo de, d'auteurs, d'autrices et d'acteurs, d'actrices, qui ont fait pas mal
Pierre
de comédies. Et...
Jean-Pierre Bakri.
Mais pas loin,
j'avais
franchement
presque,
BG.
J'avais presque.
BG.
Mais les deux, oui, c'est bien. Bah, tu sais qui c'est?
Oui.
Bah, c'est super. Et ben, attends, voilà, c'est bon. Plus pointu que Christian Clavier.
Moi, je suis une femme de niche, c'est tout.
C'est bon ?
Oui. Pardon.
Vous me dites, hein ? Non, voilà. Et du coup, je trouve que leurs analyses sont vachement intéressantes. Et en fait, ce qui est assez ouf avec leurs vidéos à chaque fois, c'est qu'ils utilisent énormément de références et d'images de films, etc. pour contextualiser, ce qui font qu'ils font un travail documentaire qui est vraiment extrêmement abouti. Tout ça avec une écriture qui est assez enlevée. Enfin, je veux dire, c'est très accessible. Et donc, voilà, cette chaîne, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps et j'ai vraiment sifflé toutes leurs vidéos. Alors, il faut savoir qu'il n'y en a pas énormément parce que bah, ils ont tous les deux une carrière à côté, finalement. Car, ah non, tout le monde ne vit pas de YouTube, surprise. Mais ça leur a permis quand même de faire des vidéos vachement intéressantes, notamment sur Louis de Funès et les comiques de droite, qui était une vidéo super intéressante.
J'ai envie d'avoir un react de Aïda à cette vidéo.
Et justement, dedans, il parle de Christian Clavier dedans, typiquement, en disant que Louis de Funès a vraiment fait sa carrière sur ce truc de je joue un vieux con réac et on rigole ensemble un peu du raciste, etc. Et il disait que Clavier avait été un peu vu par certains comme son successeur, etc.
Jusqu'à ce que
jusqu'à
ce soit pas une vanne.
Exactement. Et c'est exactement le truc de la vidéo que je trouvais super intéressant, de ce truc de... En fait, Clavier, il a tellement mis le premier degré à force qu'on a presque plus distingué le personnage du mec sur
c'est
les plateaux.
Séparer l'homme de l'artiste commence à devenir
c'est
compliqué.
Séparer l'homme, exactement. Donc voilà, je trouve cette chaîne super intéressante. Et puis voilà, ça te permet de découvrir des questions, des trucs cinéphiles, genre les dialogues d'Audiard, etc., qui sont pas forcément super connus dans ma génération, mais qui le sont pour beaucoup d'autres cinéphiles. Et des trucs qui sont plus récents, comme OSS 117, etc. Et je trouve qu'il balaye vraiment... les références sans snobisme, ce qui fait vraiment du bien, et toujours en prenant quand même une grille d'analyse, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans un truc très hommage au cinéma, machin et tout, ça reste très critique, et moi je trouve ça toujours très cool à regarder, surtout que des fois t'as pas vu les films, du coup ça donne envie de les découvrir, parce que de toute façon sur tous les films qu'ils citent dans une vidéo, en général tu les as pas tous vus, et c'est ça qui est chouette. Et plus récemment ils ont sorti une vidéo un peu différente, parce que le format dont je parlais jusque là s'appelle Rigolo, et c'était un format donc vraiment consacré à la comédie. Et là le dernier qu'ils ont sorti il y a quelques jours, c'est sur Leonardo DiCaprio, comment c'est devenu l'acteur le plus iconique de sa génération. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il ne se consacre pas simplement à ses rôles au cinéma, mais aussi à toute la culture qu'il y a autour. Donc, c'est-à-dire,
oui, pour devenir une superstar, il ne faut pas juste être un bon acteur, il faut être une superstar.
Bah, typiquement, un truc que je n'avais pas trop vu par rapport à DiCaprio et qui a contribué à le populariser, c'est l'échec par rapport aux Oscars. Le fait que c'est devenu un running gag, etc., bah, ça l'a vachement rendu sympathique auprès des gens sur les réseaux sociaux. Et le fait qu'aussi... Pensez au nombre de mèmes qui existent avec Leonardo DiCaprio. Et ça, j'avoue que je n'avais pas vu. Et là, il les aligne tous. Et t'es en mode, putain, mais ouais, de ouf. Et en effet, il s'est vraiment imposé dans l'imaginaire collectif ces dernières années grâce à ça. Et ça, c'est un truc typiquement que je n'avais pas du tout vu venir. Donc, je trouve que c'est chouette d'avoir des vidéos un peu rafraîchissantes qui durent entre 10 et 20 minutes. Donc, ça se regarde assez facilement. Donc, voilà, je vous conseille complètement cette chaîne, Calmos, qui est française. Et puis, on vous donnera le petit lien Tipeee qui est un site qui permet de soutenir les créateurs de contenu sur YouTube.
Voilà. Trop bien. Okay. Je vais devenir une nouvelle
très
personne.
Très bien résumé. Hein.
Mais c'est cool parce que je trouve qu'il y a pas tant de chaînes, enfin de trucs de décryptage de cinéma qui se penchent sur le cinéma français grand public. C'est-à-dire que tu vas avoir du cinéma, enfin des analyses de films un peu de cinéphiles. Céline Sciamma, c'est bon quoi. Tu peux avoir 12 000 vidéos YouTube d'une heure et demie sur chaque film de Céline Sciamma, mais moins sur les comédies françaises. Et aux États-Unis, je pense qu'il y a beaucoup plus de, enfin dans le monde anglo-saxon, la comédie, le stand-up et tout, c'est vu avec un peu plus de sérieux comme un objet artistique à analyser. En France, c'est un peu bah, les comédies françaises, c'est des trucs populaires pour les beaufs un peu globalement, ou alors c'est des trucs un peu arty à la Dupieux, mais tu vas pas avoir beaucoup de regards sérieux posés dessus, accessibles au grand public. Je sais que Slate le fait, tous les ans Slate fait une liste, en fait tiens, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Daniel Andreev, mais je suis pas sûre, ou MVCDLM, qui se tape toutes les comédies françaises, et qui les commente toutes, et qui fait un genre de tier list des comédies françaises, mais c'est hyper rare d'avoir ce genre de contenu, et il me semble qu'il y a un podcast qui s'appelle We Love MDR, qui parle aussi de comédies françaises, mais voilà, c'est assez rare, du coup, les analyser en tant que vrai objet filmique, comme on analyserait des Scorsese, et des Sciamma, et des Audiard, bah, c'est plutôt cool, quoi.
Ben ouais, c'est clair, et pour le coup, c'est un truc que j'ai vu aussi avec la littérature, quand j'ai eu la chance d'étudier à Londres pendant un tout petit temps, avant que le Covid arrive, donc j'avais un échange universitaire là-bas. Et j'avais un cours de littérature, et c'était de la littérature féminine et féministe française. Du coup, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, ça va être quoi le programme? Donc, t'avais des autrices un peu, comme Annie Ernaux, dont j'ai déjà parlé ici, mais aussi des trucs beaucoup plus contemporains et grand public, comme genre Amélie Nothomb ou Marie Dariussec. Et vraiment, au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va analyser là-dedans? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est des produits de leur époque. Donc, c'est super intéressant de voir pourquoi telle comédie ou pourquoi tel livre arrive aujourd'hui et a ce succès critique, a ce succès, enfin, ou en tout cas ce succès public. S'il y a un public pour ça, c'est que le film est pertinent, c'est que le livre est pertinent sur un sujet. Et bah, reste à voir ce que tu peux en tirer. Pourquoi, au lieu de taper sur les tuches, comprendre pourquoi ça suscite un tel engouement. Après, évidemment, on peut reprocher des trucs sur le fond, sur la forme et tout. Mais ça n'empêche pas de considérer l'objet et le phénomène comme
oui, bah, c'est bah, un
ce
peu
qu'il
comme
est, un succès.
Tout ce qui est culture populaire, la télé-réalité, on le voit avec les artistes musicales qui font de la musique populaire, voire urbaine. D'autant plus quand c'est des femmes et d'autant plus quand c'est des femmes racisées. Enfin, le nombre de gens qui se sentent plus pissés parce qu'ils sont là, Aya Nakamura, je sais pas qui c'est. Je suis là, cool, bah t'es vraiment pas cultivé parce que vraiment on en parle depuis 3 ans dans le monde entier. Donc maybe ouvre tes yeux et ouvre ton esprit. Mais il y a pas, enfin, si un truc marche, c'est qu'il y a des choses à en dire, quoi. On n'est pas obligé de dire que c'est bien, mais ça vaut le coup de se demander pourquoi ça marche.
Ouais, surtout que en plus, je trouve que dans l'art, et moi, c'est ce qui m'intéresse toujours, c'est que les différentes disciplines sont des vases communicants. Et typiquement, tu peux pas comprendre la musique et la scène aujourd'hui, même la scène pop, si tu ne connais pas un minimum la scène urbaine. Alors, je mets des guillemets, vous les voyez pas, mais je mets des guillemets. Parce que bah, ça a révolutionné plein de codes. J'ai vu un concert de rap hier, je serais incapable de vous dire qui, parce que je ne connais rien au rap. Vraiment, j'illustre totalement ce que je suis en train de dire, c'est vraiment génial. Mais cette culture typiquement de vachement jouer avec l'image, de vachement être conscient de sa stratégie, etc. C'est beaucoup les rappeurs qui l'ont imposé sur la scène française. Et je trouve ça fascinant de voir que ça se retrouve doucement chez des artistes qui n'ont pas en fait ce style musical. Et j'arrête de parler.
Ben non, mais c'est hyper intéressant. On pourrait faire encore 2 heures dessus.
Oui,
mais
je suis trop bavard.
Ce sera du coup l'objet d'un podcast de 8 heures qu'on créera un jour avec Mathis. Voilà.
Exact. Maybe. Qui s'appellera Mon avis. Ou le seul avis qui compte. C'est une bonne idée, tiens.
Les autres avis qui comptent, mais un peu moins que celui de Kalindi.
Ouais.
Kalindi.
Titre très long.
J'ai oublié. Ah oui, non, c'est bon. Ah bah non, il est incroyable en plus.
Eh bien, le podcast est fini, messieurs dames.
Elle m'a énervée.
Parce que c'est le... Alors, j'avais écrit à Mimi. Mimi nous demande toujours avant quels sont nos kiffs pour éviter qu'on ait le même ou que ça se ressemble trop. Et moi, j'ai écrit être une actrice d'Hollywood. Mais donc, c'est pas tout à fait ça, puisque vous pourrez le remarquer, je ne suis ni actrice ni à Hollywood.
T'es un peu... Attends, t'es actrice.
Justement, alors. Je viens un peu mal le fait que je viens encore mal le fait que j'ai toujours pas été dans les 50 finalistes de du Nikon Film Festival, mais bon, bref,
je blâme Jonathan Cohen personnellement.
Et bref, en fait, le mois dernier, donc mon kiff, c'est une expérience que j'avais jamais vécue et que j'ai vécue donc le mois dernier. En gros, j'ai rencontré une femme dans une soirée qui m'a dit j'écris un truc en ce moment, j'écris une série, mais avant j'aimerais tester le format sur des courts-métrages. Et en fait, tu ressembles à, enfin, j'ai un personnage que j'ai écrit, il me fait penser à toi. J'ai lu le rôle, après j'étais là, vraiment merci beaucoup, c'est la pire connasse. Mais... Et c'est une espèce de fille de ministre complètement déconnectée de la réalité qui pense qu'à ses fringues et qui déteste tout le monde, et j'étais là vraiment super. Et
non mais on va rien dire. Oui.
Et du coup elle me dit ouais, est-ce que ça te dirait de tourner dans un court-métrage pour moi et tout, et j'étais là ouais bien sûr et tout. Sauf qu'en fait, moi, je stresse pour absolument chaque chose de la vie. Donc là, quand elle m'a dit, bah tiens, on tourne dans un mois, je t'envoie le texte dans 2 semaines. Je lui dis ok et tout, chill. Et 2 semaines après, elle m'envoie mon texte. Il y avait donc 12 pages de texte à apprendre, sachant que je suis nulle pour apprendre des trucs par cœur. Ce qui fait mal démarrer ma carrière d'actrice.
T'improvises.
Voilà.
T'es là en mode, j'ai compris l'essence, je vais te le faire à ma façon.
Exactement. J'ai compris l'idée, je vais juste changer les mots.
Bien sûr,
et donc évidemment, ça ne me rapportait pas d'argent, mais en plus, j'ai dépensé de l'argent parce que j'ai pris des cours de théâtre en plus pour préparer. Non
mais les calculs sont pas bons.
Non. Non mais je préfère être pauvre mais compétente que riche et nulle, tu vois.
Ah ouais.
Ah ouais, complètement.
Pas du tout.
Si tout le monde était comme toi, le pays serait vraiment bien. Hein.
Toi qui es de droite en fait. Mais
je suis fatiguée, c'est pas la même chose. De gauche fatiguée.
Et donc ouais, j'ai pris des cours de théâtre, ce qui était un peu ridicule parce qu'en vrai, c'était pas trop nécessaire, tu vois. Mais bon, peu importe. Et est venu le jour du tournage où j'étais méga stressée du cul parce que j'avais jamais fait un tournage avec des gens dont c'est le métier, qui sont réalisateurs, qui sont auteurs professionnels. Et j'avais déjà fait des trucs moi-même avec des copines quand j'étais plus jeune et tout. Mais bon, voilà, c'est tout. Et j'étais hyper impressionnée de me retrouver sur un plateau, un vrai plateau, avec des vrais gens. Plein de techniciens et tout, une quinzaine de personnes. Enfin voilà, c'est un peu impressionnant. Et j'ai passé la meilleure journée de ma vie. Genre, franchement, pendant 3 jours avant, j'étais là. Je veux pas y aller, j'ai inventé un truc, je veux dire que j'ai le Covid et tout. Et en fait, j'ai vraiment passé la best journée. Pourtant, c'était pas facile parce que donc le rôle que j'avais était le rôle, enfin, c'est une personne qui sort avec un gars et c'est leur histoire d'amour un petit peu en huis clos dans un appartement. Et en fait, donc, je devais être en couple avec un type que j'avais jamais rencontré. Et, on avait une scène d'intimité, notamment et tout, que j'imaginais être très difficile à tourner et qui, en fait, l'a pas du tout été parce que j'ai eu un comparse qui a été le meilleur gars possible avec qui j'ai vraiment matché immédiatement. Et c'était trop cool. Et franchement, je suis sortie de cette journée, j'étais là. Attends, c'est ça que je veux faire de ma vie. Genre, je m'en bats les couilles de pas dormir pendant 3 semaines avant à chaque fois, mais qu'est-ce que j'aime qu'on me regarde.
Et vraiment, t'es la dernière personne à l'apprendre.
Et c'était trop trop bien. Et du coup, en fait, on va en faire d'autres avec ces deux réalisatrices qui s'appellent Sarah Jacquier et Anne-Laure Parmentier, qui font du super travail, qui par ailleurs travaillent surtout sur des clips, etc. Et,
Anne-Laure Parmentier.
Non, je me suis gourée. C'est Anne-Laure Jéglé. Pardon, oui, j'ai dit Parmentier. Alors, je redis, c'est Anne-Laure Jéglé. Oui, non, oui.
Anne-Laure Parmentier.
Aucun rapport avec Anne-Laure Parmentier.
C'est du podcast On the Verge qui vient de devenir un livre. Un podcast et donc un livre sur les sexualités masculines que je vous encourage grandement à découvrir. On l'adore, mais ce n'est pas elle du coup.
J'étais non, Anne-Laure Jéglé.
Elle a le temps en plus de faire des séries.
Et non. Et voilà, donc on devra en refaire ensemble. Et franchement, c'était une putain d'expérience qui m'a donné envie de fabriquer moi-même. C'était déjà un truc pour lequel j'avais une appétence. Mais là, ça s'est vraiment confirmé en étant sur le set. Et voilà, c'était une super expérience et je me suis dit que je faisais, enfin que en ce moment j'étais contente parce que je faisais plein de trucs pour la première fois, ce qui m'était pas arrivé depuis des années parce que bah quand t'as le même travail depuis des années, bah tu fais un peu toujours la même chose. et le Covid, bah tu fais un peu toujours la même chose. Tu vas, enfin moi ma vie c'est aller au travail, aller au restaurant, boire la gueule, tu vois. Donc l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, tout ça. Mais du coup là en ce moment je fais plein de trucs que j'avais jamais eu l'habitude de faire et franchement ça me fout un stress pas possible. J'en dors jamais, mais eh bien c'est hyper positif pour tout ce qui est le ciboulot, moi qui ai tendance à la mélancolie et voilà. Donc c'est un très très gros kiff. J'ai vraiment passé une putain de journée. J'avais complètement oublié que j'avais fait ça, donc ça aurait pu être mon kiff il y a vraiment un mois, mais bon, peu importe. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir le montrer parce que je suis fière de ce qu'on a fait. Je pense que ce sera pas excellent parce que ni Lorenzo, qui joue mon partenaire à l'écran, ni moi ne sommes acteurs. Donc du coup, je pense que ça sera pas formidable. Mais en tout cas, nous, on a passé un super moment et c'est l'essentiel. Voilà.
Quand est-ce qu'on peut le voir ?
C'est la question.
On fait une projection au cinéma et tout le 15 mai. Et après, on
bah, n'hésite pas à nous informer, à nous inviter.
Non, franchement, je sais pas si j'ai envie que vous veniez. Okay. je sais pas. Je vais réfléchir et je vous le dirai.
On ne viendra pas hein. te mettre mal à l'aise. Par contre, les LM Crado à Paris, allez-y en masse là, le 15 mai.
Mais voilà, c'était vraiment une super expérience et j'espère que je vais avoir encore plein de moments dans ma vie où je vais tester des trucs que j'avais jamais fait avant parce qu'il n'y a rien de plus grisant et rien de meilleur pour le ciboulot, en tout cas pour le mien. Donc,
ton prochain kiff, c'est le karting.
J'ai déjà fait du karting en fait.
Sauter en parachute.
Bah, vous savez que mes amis m'ont offert ça l'année dernière, j'en ai déjà parlé dans LMK, et en fait, on s'est tous offert ça avec les quatre de mes meilleurs potes, on s'est offert ça pour le faire le même jour, et ça fait vraiment un an et demi qu'on a tous un saut en parachute sur notre compte en banque et qu'on l'a jamais fait, donc on le fera
après,
bientôt.
Après, once again, le Covid. Il y a quand même beaucoup d'activités qu'on n'a pas trop fait ces deux, trois dernières années pour des raisons de type on n'a pas choisi.
C'est vrai.
Rappelons que je devais apprendre le shibari et aller faire un caisson d'isolation sensorielle. Je n'ai rien fait.
Oui, c'est vrai, putain.
Pour la broderie, j'ai pas d'excuse.
Un caisson d'isolation sensorielle, c'est quoi ça ?
Tu sais, c'est les trucs où tu flottes. Donc, c'est des caissons pleins d'eau qui est saturé en sel de façon à ce que ça soit pile le niveau de flottaison de ton corps. Donc, en gros, tu sens pas. Enfin, tu flottes, t'es semi-immergé, tu sens pas du tout de pression, de gravité. Et l'eau, elle est à température pareille corporelle le plus possible. En gros, tu sens pas de choc thermique. Et c'est un truc d'isolation où il y a pas de bruit, il y a pas de lumière. Tu sens pas l'eau, tu flottes. Et l'idée, c'est de faire un truc méditatif pendant une demi-heure, une heure, qui peut être très relaxant ou te rendre mabulito si t'as tendance à être.
C'est Stranger Things en fait.
Ouais. Hein,
c'est Stranger Things.
Oui,
en fait.
Bah, c'est ça. C'est le truc qu'elle fait dans Stranger Things, mais en pas piscine gonflable dans un gymnase de lycée, mais en c'est des gens dont c'est le métier. Et Fabrice Florent que j'embrasse m'avait offert ça. Et puis après le Covid et puis du coup je l'ai pas encore fait mais wow. Je le ferai okay. J'ai hâte, je suis curieuse.
Exister, c'est ouf.
J'ai un pote qui a fait ça
dedans.
Et il était vraiment allé en mode bon ok ça va être une expérience, trop hâte de voir ce qui va se passer et tout, et en fait il l'a fait une fois et ensuite il est sorti et il m'a dit non mais maintenant je suis accro, je veux le faire tous les jours.
Et je pense que
genre
ouais,
vraiment
comme,
ça l'a rendu accro,
c'est de la maxi méditation quoi, et c'est un truc de tu peux pas avoir plus de silence je pense et de calme dans nos vies en plus
de
grandes villes et tout, c'est mais une chance sur deux ouais, que je vrille ouais. Et que je sois là. Sortez-moi de là au bout de 10 minutes, on verra, je vous en parlerai. Dans Laisse-moi kiffer ou ailleurs, mais je vous en parlerai en tout cas.
Ouais, c'est dangereux comme cadeau. Enfin, faut bien connaître la personne à qui tu l'offres.
Hein. Ça va, Fab me connaît pas mal.
Ne m'offrez pas ça, personne, jamais, vraiment.
Très bien, vous notez.
Merci.
Ne m'offrez pas ça à Mathis. Alright, à mon tour. Mon kiff est un livre. Ça fait un petit moment. Je me suis remise à bouquiner là ces derniers temps, ce qui est un peu cyclique dans ma vie. Ça dépend de si j'ai le temps et la foi. Et je me suis remise à bouquiner en partie parce qu'on m'a conseillé des bons bouquins. Donc je vais vous parler d'une saga de fantasy originale,
ah bon
mais française et actuelle, contemporaine. En cours de diffusion. Donc ça change. Big up à Manuel Castejón, rédacteur chef de Frandroid, puisque c'est lui qui me l'a conseillé après avoir débattu avec moi de La Tour Sombre de Stephen King, une de mes grandes passions.
Enfer.
Une grande saga. Et comme Manuel a du goût, eh bien, il sait que La Tour Sombre, c'est super.
Je
voilà.
Me suis arrêtée au tome 2, j'étais là, je ne comprends plus rien. Ce qui
t'as
se passe.
Même pas vu les pires dingueries, mon gars, ça part en vrille après. Bref, j'en ai fait une vidéo il y a très longtemps, c'était ma première vidéo pour Mademoiselle. Je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez voir à quel point j'ai changé. C'était vraiment il y a 6-7 ans. Mais donc, La Tour de Garde, et non La Tour Sombre, c'est une saga de fantasy française qui est déjà hyper intéressante dans sa création, puisque c'est une double trilogie. Il y aura deux fois trois tomes, et actuellement, le tome 1 et le tome 1 bis, enfin le tome 1 de chaque trilogie est sorti, le tome 2 de la première trilogie vient de sortir, mais c'est sûr qu'il y aura les trois de chaque côté, parce que j'étais là, ok, ça va de conseiller aux gens des sagas fantasy pas finies, ça m'arrive tout le temps, je vous ai parlé du Nom du Vent, c'est pas fini, je vous ai parlé de Game of Thrones, c'est pas fini, j'étais là, j'en ai marre. Et il m'a dit, t'inquiète, c'est sûr, ça va être publié. Et pourquoi c'est une double saga ? C'est parce que c'est un auteur et une autrice qui sont en couple dans la vie, qui écrivent chacun une partie d'une saga.
Incroyable.
Qui se passe dans le même univers, mais dans des villes différentes. Donc c'est Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian. qui sont deux cadres français qui habitent dans le sud de la France. Et en fait, Guillaume écrit Capitale du Sud, une des trilogies de la Tour de Garde, et Claire écrit Capitale du Nord, l'autre trilogie de la Tour de Garde, qui se passe, du coup, vous l'aurez deviné, dans deux villes différentes, l'une au sud et l'une au nord, d'une contrée qui est à peu près européenne, on va dire, dans le climat. Et ce qui se passe dans la Tour de Garde, c'est que donc, le Capitale du Sud, qui est le premier que j'ai lu, où deux tomes sont sortis, il y a Capitale du Sud, le sang de la cité, c'est le tome 1, et Capitale du Sud, trois lucioles, le tome 2. Ça se passe dans une ville qui s'appelle Gemina, où le héros s'appelle Nox, et en gros, donc, c'est un monde... Oui, médiéval fantastique dans le sens où il y a de la magie, du surnaturel et pas de smartphone et pas de bagnole, clairement. Mais c'est assez rafraîchissant parce que donc, l'auteur vit à Aix-en-Provence et je trouve que ça se sent, c'est une écriture de ville qui est très très ville du sud de la France et qui change un peu de ce côté médiéval très britannique qu'on a bah, dans Game of Thrones, dans Le Seigneur des Anneaux, cette hégémonie du « le Moyen-Âge ressemble à un petit village british bah, », là c'est un peu plus sud de la France et du coup ça change. Et donc le héros Nox a été sauvé par donc la ville Gemina et séparé en plusieurs duchés. Et il y a des guerres un peu intestines politiques de différents ducs qui veulent prendre le pouvoir. Au début, un duc prend le pouvoir sur un autre duc, il va le buter dans son château comme chacun fait, qui est un peu sanguinaire et tout. Et il trouve dans les caves, les cryptes du château, deux enfants qui ont été mis là, vaguement nourris, en tout cas gardés en vie, mais qui ont été enfermés, séquestrés là-dedans. Un frère et une sœur, donc Nox et Daphné, et Nox devient le héros du livre, il a grandi, donc il a été sauvé par ce duc quand il avait, 8-9 ans, après avoir grandi en captivité, donc clairement un lourd bagage traumatique. Et il a grandi, c'est le héros, et il est un peu électron libre dans cette cité. En gros, il bosse pour un négociant en vin, donc il fait ses livraisons. C'est une ville très, très... On adore le vin, donc j'aime trop. Ça parle de bouffe, ça parle de picole. C'est le sud de la France, on adore. Et donc, c'est une ville qui s'est construite sur le vin, où tout le monde aime boire du vin et tout. Donc, il y a beaucoup d'histoires viticoles. Et Nox est livreur pour un genre de... Ouais, de... caviste slash épicerie fine qui fait à boire et à manger. Il livre ses trucs dans toute la ville. Il connaît hyper bien la ville, qui est très vallonnée, donc il y a beaucoup de... d'architecture et de géographie, il y a beaucoup de « j'escalade tel muret, je passe par tel olivier, je suis sur les toits », et donc il est connu pour être vraiment le mec qui sillonne la ville. Et c'est une ville qui change tout le temps, parce que qui est très vivante, même en termes d'urbanisme, parce qu'il y a un organisme qui est évoqué, on sait pas trop ce que c'est, qui s'appelle la recluse, mais on comprend que c'est l'organisme qui s'occupe des travaux. Donc au début j'étais là, ok, bon c'est les travaux, on s'en fout un peu. Mais c'est vraiment mentionné comme un truc très mystérieux, très important, très respectable, où tu veux pas avoir de problème avec. Et j'étais là, mais c'est quoi, c'est la voirie, c'est des maçons, qu'est-ce qui se passe? Et en fait non, c'est des gens qui ont un genre de pouvoir où ils peuvent manipuler la pierre, le mortier et tout. Donc quand ils disent on va construire un canal, c'est pas on va creuser avec un bulldozer, c'est on va faire des trucs magiques secrets. Du coup faut pas trop déconner avec eux. Mais du coup la ville évolue tout le temps, t'as des canaux, c'est une ville portuaire, donc t'as plein d'histoires de cours d'eau et de machins et de ports et de bateaux qui arrivent de loin et tout. Et je trouve que c'est... J'aime bien... Déjà, j'ai ouvert le livre, il y avait une carte au début. Une carte de la ville. Et j'étais là, oui, c'est mieux les livres de fantasy avec des cartes. J'aime bien. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir autant d'urbanisme et d'architecture dans un livre de fantasy. Et du coup, Nox sillonne la ville, livre du vin, et travaille en soum-soum un peu pour le duc qui l'a sauvé, qui l'a plus ou moins pris sous son aile, mais... qu'il n'a pas non plus adopté officiellement, faut se calmer, et se retrouve mêlé, évidemment, à des conspirations politiques, à des légendes de la ville qui ont peut-être une part de vérité, même si on pensait que c'était que des histoires de bonnes femmes, à des potentiels assassinats, enfin plein de choses qui se passent, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est pas tant un Harry Potter dans le sens où il réussit pas tout ce qu'il fait du premier coup. Il est fort dans certains trucs, pas fort dans d'autres. Il est pas beau, il a pas trop de succès avec les meufs. Hein, il est pas, c'est pas le beau gosse, ce qu'on appelle côté féminin une Marie Sue, c'est-à-dire un perso qui réussit tellement tout que c'est un peu chiant et qui arrive tout le temps dans les livres de fantasy, on va pas se mentir. C'est quand même un perso qui est assez réaliste. Pour moi, le seul truc pas réaliste, c'est que je suis là. En fait, si t'as passé 8 ans en captivité, tu devrais être vraiment assez peu, je pense, adapté à la vie sociale. T'as l'air de bien aller quand même pour un gars qui a un background spécifique. Sa sœur est plus flinguée. Sa sœur, t'as quand même des histoires en mode « Ouais, elle a encore planté une go à l'internat, donc on l'a remise au château un petit moment. » Je suis là « Bah en vrai, c'est cohérent. Moi aussi, j'aurais envie de planter des gens, tu vois, si j'avais été élevée en captivité. » Donc c'est le seul truc où j'étais là « petit doute. » Bon, à part la magie et tout, bien sûr, mais ça... Pourquoi pas? Et donc c'est l'histoire de Nox qui se retrouve mêlée à plein de bails, qui redécouvre un peu l'histoire et les légendes de la ville et de ce monde-là, qui remet en question bah, les évidences qu'on a pu lui présenter en découvrant que le monde est rarement tout blanc ou tout noir, et que même les gens qui ont l'air sympas le sont pas toujours, et que même les gens qui ont l'air pas sympas ont parfois leur raison. Et c'est vraiment immersif, je me suis retrouvée plongée dans cette ville, dans cette culture, j'ai trouvé que c'était hyper original de, voilà, d'avoir ce côté... inspiration française sud de la France qui était très chouette. Et en parallèle, du coup, donc ça c'est Capitale du Sud, il y a Capitale du Nord qui est beaucoup moins Avignon, Aix-en-Provence, le vin coule à flot, puisque ça se passe dans une ville beaucoup plus nordique. C'est donc écrit par Claire Duvivier et pour le coup, il y a un seul tome qui est sorti. Ça se passe dans une ville dont on entend parler dans Capitale du Sud, qui est une des grandes autres villes, qui s'appelle De Haven et non pas Gemina, qui a un autre type de culture. Et en fait, j'aime trop. C'est un peu comme quand tu lis le préquel d'un bouquin que t'as lu et que tu as des name dropping de gens où tu sais ce que leurs descendants vont devenir et t'es là, ah yes, j'ai les bails. Là, c'est un peu plus rapproché puisque t'as des, par exemple, t'as un perso important de Capitale du Sud. Dans Capitale du Nord, t'apprends qu'il vient de quitter la ville. Toi, t'es là, ah mais je sais où il va aller, je sais ce qui va lui arriver, mais là, ils savent pas encore et tout. Et donc, c'est l'autre partie de l'histoire et les deux histoires finissent par se recouper. Et je trouve que c'est... Alors, je vais moins vous parler de Capitale du Nord déjà parce que je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas encore fini, celui-là. Parce que du coup, j'ai craqué sur Capitale du Sud, tome 2, et donc, il faut que je reprenne le tome 1 de Capitale du Nord. Bref, c'est une héroïne dedans. Donc, on a un héros et une héroïne. Un héros écrit par un mec, une héroïne écrite par une meuf. Après... Je peux pas encore trop dire pour Capitale du Nord, mais j'ai pas trouvé que les personnages féminins de Capitale du Sud, donc écrits par un homme, étaient particulièrement nuls. Enfin, franchement, il a fait le taf. Il y a plusieurs personnages féminins, assez différents. Il y en a pour lesquels le héros a un certain attrait physique, mais c'est pas comme s'il décrivait toutes les meufs en mode « Voici leur taille de soutien-gorge en premier », ce qui est quand même souvent le cas. Donc c'est intéressant d'avoir une histoire à deux voix dans deux endroits différents, écrit par deux personnes de genres différents, avec des personnages principaux de genres différents et des cultures différentes. Et en même temps, c'est dans le même univers, ça se recoupe. Et je sais que j'avais lu un jour sur Reddit « Est-ce que ce serait pas cool de faire comme les musiciens font des reprises de chansons ?» D'avoir des auteurs qui font des reprises de textes, genre réécrire « Le Seigneur des Anneaux » par Amélie Nothomb, tu vois, ça serait hyper marrant de voir comment elle ferait. Il y aurait moins de chansons déjà, ce serait plus court, on se ferait un petit peu moins chier,
ouais,
mais ce serait
putain, c'est vrai que c'est le livre où il y a les chansons « Le Seigneur des Anneaux » avec écrit en elfique,
machin. Il y a des pages et des pages
machin,
de chansons elfiques, putain. Vraiment, autant les descriptions de banquiers qui durent 18 pages dans Game of Thrones, je suis la donne, c'est bien, j'aime bien la bouffe, autant les chansons, je vais aller Tolkien, d'accord. On passe. Là, il y a des descriptions de vin et de gâteaux au miel, donc je suis très contente.
Pas mal.
Capitale du Sud. Et du coup, voilà, t'as cet univers partagé. En plus, je trouve ça hyper inspirant, deux auteurs, enfin un auteur et une autrice qui écrivent et qui sont en couple. Et je sais pas, je me dis, ça doit être une émulation
le
de
soir.
Et en même temps, je sais pas si je le tenterais parce qu'imagine ton gars, il écrit mieux que toi.
Je me sentirais trop en compétition.
Lui, il est là, oh, j'ai déjà fini et tout. Lui, il a pas de retour de son éditrice. Toi, t'en as 1000. Tu vois, genre, je serais là, ça, c'est bon.
Ouais, mais tu vois, en plus, ils parlent de vin et tout. C'est sûr, ils écrivent ça en se peintant la gueule et tout.
Ah bah, j'espère, c'est tout le mal que je leur souhaite.
En buvant du vin et mangeant des gâteaux au miel.
La France qu'on
aime. Meilleure vie.
Mais attends, mais quoi? Mais pourquoi c'est pas ça ma vie, putain?
On est d'accord, c'est ce que je me suis dit quand Manu, il m'a dit en plus, c'est un couple qui écrit et tout. J'étais là. Mais attends,
je vais pas faire ça.
Je vais en parler à mon gars, écoute, je vais lui dire
bah
vas-y,
ouais,
lui il a quitté son taf, moi je quitte le mien, vas-y on écrit une saga fantasy.
Mais voilà,
ça, dans le plus grand des cas. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la tour de garde. Ah oui, et ça s'appelle la tour de garde parce que, et ça c'est un truc que j'aime bien dans les bouquins de fantasy, et c'est
il y a une tour avec un œil au milieu.
Assez courant. Eh bien non, c'est un jeu, la tour de garde, c'est un jeu comme un jeu d'échecs qui a été inventé du coup par ce duo d'auteurs autrices, et c'est un jeu auquel jouent les personnages, et c'est un... Il y a pas mal de bouquins de fantasy, il y avait ça aussi dans Le Nom du Vent, où il y a un jeu voilà, style échec, style dame, où tu sens qu'il est assez pris au sérieux par les gens qui y jouent, c'est un jeu pour les adultes et tout, et qui est forcément un peu une métaphore des jeux de pouvoir et des dynamiques qu'il peut y avoir entre les personnages. Et là, du coup, la tour de garde, c'est pareil. C'est peut-être le seul truc dans lequel Nox est exceptionnellement doué, c'est qu'il est très très bon à la tour de garde, et en même temps, c'est un gamin qui a passé sa vie à y jouer, donc pourquoi pas, c'est ton pote fort aux échecs, quoi. Et j'ai pas encore les règles du jeu. Tu devines un petit peu les règles, tu devines un peu, mais il n'y a pas, voici les règles de la tour de garde, vous pouvez y jouer chez vous. Mais du coup, le fait que ce soit le nom de la saga me fait me dire, portons attention aux parties de la tour de garde qui se passent, il y a des trucs de, il y a des figurines rares, enfin, ça se joue avec des figurines sur un plateau, du coup. Et je pense que c'est un truc de conquête de territoire ou de machin comme ça. Et tu commences à avoir des trucs genre, ah, t'as telle figurine, je savais pas qu'on pouvait jouer avec, bah si, en fait, il y a un mec dans tel quartier qui l'a fait, mais faut le connaître et tout. Donc je suis là, ok, c'est aussi quelque chose qui va représenter en micro les événements macro de l'intrigue, et j'aime bien les trucs de fantasy où ils inventent des jeux, j'aime bien les jeux vidéo où il y a des sous-jeux, voilà, vous le saurez. Les petits kinks de Mimi, j'aime bien les jeux de cartes dans Final Fantasy, et j'aime bien les faux jeux de société dans les trucs fantasy. Du coup, ça s'appelle la tour de garde parce qu'ils jouent à la tour de garde, et on verra à la fin ce que ça donne la tour de garde. Et normalement, c'est bon, quasiment tout est écrit, tout est vendu, les trois tomes de chaque trilogie vont paraître. Donc vous pouvez déjà, et en plus c'est aux éditions, aux Forges du Vulcain, qui est quand même le meilleur nom de maison d'édition du monde. C'est paru, donc Capitale du Sud tome 1 et 2, Capitale du Nord tome 1, bientôt tome 2, et c'est vraiment super, et c'est français, Donc, Cocorico.
Ça a l'air trop bien.
C'est trop bien.
Trop chaud. Ouf.
Je peux vous le prêter.
Il y a ouais. des bêtes ou
oui.
pas ?
Oui.
Il y a pas de dragons et de machins comme ça, si c'est la question. Il y a donc il y a la magie pour construire voilà le mortier, enfin le truc de la recluse. Et il y a une sorte de passage dans un genre de dimension des ombres. En gros, le héros assez vite, je pense pas que c'est un spoiler de le dire, se rend compte qu'il y a un genre de voilà de sous-dimension de la ville où lui il peut aller, mais qui comporte aussi ses dangers, qui du coup parfois peut lui un peu comme Frodo quand il met l'anneau. Genre, il devient invisible, certes, mais il se met en danger aussi d'une autre façon. Bah là, c'est pareil. C'est ok, tu peux échapper à des trucs et te promener incognito dans la ville, mais il y a des risques, il y a des dangers, des machins comme ça. Pour l'instant, c'est les deux formes de magie principales, je pense, que j'ai vues dedans, de trucs surnaturels, mais peut-être qu'à la fin, il y aura des dragons. Je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être le délire.
J'adore les bestioles. Ok, j'ai noté.
Ok, pas de bestioles, donc point négatif. À part ça, super.
Le truc des deux points de vue, est-ce que c'est genre, on en avait déjà parlé ici, comme la rivière à l'envers, où t'as un point de vue puis un autre, ou ça s'entrecroise vraiment beaucoup plus ?
Pour l'instant, ça s'entrecroise pas, okay. dans le sens où l'héroïne de Capitale du Nord n'a pas croisé elle est pas, bah, en fait, elle est dans la Capitale du Nord, et la Capitale ouais. du Sud, ils sont dans la Capitale du Sud. Je pense qu'à la fin, ils vont se croiser. Mais pour
ils
l'instant,
sortir ensemble et se rendre compte qu'ils sont cousins ?
Oh, j'espère pas. J'espère qu'il va pas y avoir une histoire d'amour quand même.
Habiter en Mayenne.
Van que je ne peux pas faire. Et je suis pas encore sûre de la temporalité. Je pense que ouais, ça se passe pas exactement okay. au même moment. Tu vois, je pense que Capitale du Nord c'est avant. Enfin, c'est sûr que c'est avant. À quel point c'est longtemps avant, je ne sais pas.
Maybe c'est sa daronne.
Maybe c'est sa daronne. Non, parce qu'on sait que c'est sa daronne. Mais maybe c'est sa tata, tu vois, c'est possible. Mmh. Donc ça, il va y avoir des bails, il va y avoir des recoupements, mais c'est pas la même histoire racontée par deux points de vue différents.
Okay.
C'est deux histoires dans le même univers, racontées par deux points de vue différents dans ouais. une temporalité un peu désynchrone.
J'adore
asynchrone.
Ça.
Voilà.
J'adore ça et j'aime bien les films aussi qui font ça avec ce truc des points de vue où ah, à quel moment ils vont se croiser, etc.
Oui, et à la bah, fin t'as... ça se recoupe et tu fais ah,
mais ouais, ou pas. Je parlais de Clapiche la dernière fois et je crois que c'est ça le truc de deux mois, genre
pas,
deux
ou de Paris
MOI.
Aussi, ça se...
Ouais, il aime bien les faire ces trucs là. Après, c'est plus ou moins bien fait. Moi, je sais que j'ai un film de Haneke que j'adore qui fait ça, qui s'appelle vraiment, m'insultez pas. Voilà, bon, pardon. Ça s'appelle 71 fragments d'une chronologie du hasard. Je suis vraiment désolé.
Mathis.
Je suis vraiment désolé. C'est un film de Haneke. J'aime bien Haneke. Voilà, soumis. Je suis
aussi
droite.
J'aime bien
voilà.
Haneke.
Mais bon, bah, j'en apprends tous les jours.
Mais ce film est vraiment incroyable. Et c'est ce postulat de on suit plein de gens et on sait pas pourquoi on suit tous ces gens.
Yes.
C'est de manière random
c'est
et on comprend après.
C'est quoi le point commun ? Bon, là, on le sait.
Ce qui me gonfle.
J'adore ça.
Ça me saoule. Et bah, tu vas adorer la ton regarde.
Yes. Ok,
et
la
coup,
tour
bah,
de
il y a
garde,
plein d'interviews de l'auteur.
Ça, c'est
et de
incroyable, franchement, c'est
de
leur best
travail,
life, quoi.
De créer en couple et tout.
Mais
je
ouais.
trouve que c'est risqué. Moi, je suis dans la team, faut pas bosser avec ton gars ou avec ta meuf parce ouais. que si ça se passe mal, tes collègues, c'est chiant. Voire associer, ce qui est encore pire. Mais en vrai, créer une saga de fantasy avec ton mec ou ta
ça
meuf,
peut être
best,
très
life,
best life, quand
c'est
même.
C'est mimicore, quoi.
Ça donc, peut être très lui.
Maybe
très
one day, might fuck around et créer une saga de fantasy avec mon mec, écoute, je tiendrai au courant. Eh bien, ma foi, c'est la fin de ce Laisse-moi kiffer. C'était un très bon épisode.
Excellent.
Pas. Très très bien.
J'étais
pour
nous
très
en tout
heureuse.
Cas, j'espère que pour vous aussi, cher Alain Crado. On se donne rendez-vous à l'heure où cet épisode sort, ce soir, le 21 avril à 20h sur Twitch, pour mon dernier Laisse-moi kiffer en live Twitch officiel, avec des surprises, des thématiques, des bisous et du glow, évidemment. En attendant, vous pouvez nous envoyer vos dédicaces, vos messages boubou, messages réré, messages bourrés et vos éventuels commentaires audio si vous en avez à @laissemoikiffer sur Instagram ou à laissemoikiffer@mademoiselle.com. Et pour tout ce qui est écrit, ça se passe pareil, soit sur Instagram, soit dans nos Instagram personnels que vous retrouvez dans la description de chaque épisode, soit si vous le souhaitez sur Apple Podcast, mais seulement avec
5 étoiles.
Allez, oh. Des bisous, à ce soir sur Twitch, à lundi prochain, ah je peux pas du tout, à jeudi prochain en podcast. Bye bye.
Bisous.
Bisous.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.